Vous êtes toujours sur Radio de Canstock.
Bien, nous allons maintenant avoir une carte blanche avec la ville d'Angoulême. Alors Angoulême, cette semaine, fait l'actualité. Le Festival international de la bande dessinée. Riyad Satouf, qui est le lauréat de cette année, hein, le papa de l'Arabe du futur. Et le deuxième gros événement d'Angoulême, c'est que des étudiants et des étudiantes de l'ISA, BTS audiovisuel, se déplacent à Biarritz, au FIPADOC. Alors, nous accueillons quatre ambassadeurs, ambassadrices de l'ISA, en option montage post-production. Ici, nous connaissons. Et également des étudiantes, si je... non, étudiantes, je ne sais plus, vous allez m'aider. De l'option gestion de production. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette option-là.
Ben, la gestion de production, c'est une option qui est là sur toute la phase d'un projet, donc sur du début à la fin. On va gérer tout le projet, de l'aspect juridique à l'aspect financier. On va être là à la création, à la préparation du tournage, sur le tournage, après le tournage et même parfois à la diffusion.
On fait, donc comme disait Constant, des tournages. On fait aussi des émissions. Mmh. On ne fait pas de radio. Justement, on fait de la... Mmh. On gère en fait des équipes. On a des gros dossiers à rendre à la fin, mais on va faire par exemple des devis, des contrats, bulletins de paye, tellement de trucs, bulletins de paye, bilan financier, ouais, tout ça. Enfin, beaucoup de documents.
Moi, je trouve que c'est bien la gestion de production parce que c'est un domaine qui est assez large. On peut aller dans différents, on va dire... dans différentes industries, on peut aller en festival, en événement, à la télé, au cinéma, à la radio. Enfin, c'est assez large et on ne fait pas qu'un seul truc. Par exemple, les monteurs, ils vont rester devant un ordinateur, et pas nous.
Le battle est engagé. Alors justement, montage post-production, cette semaine, depuis mercredi, je crois, vous êtes ici à Biarritz. Parmi la programmation du FIPADOC, quelques coups de cœur, coups de gueule.
Bonjour, moi c'est Enza. Du coup, on est en montage et post-production avec Mao. Et hier soir, par exemple, je suis allée voir la musique pour Les Pigeons Noirs. Mmh. Et je trouve que c'est un long métrage donc de 1h30 qui est hyper intéressant pour les personnes qui aiment le jazz, donc aiment la musique. Et je trouve que... ils mettent bien en valeur les portraits documentaires de chaque artiste musicien, et tout en mettant aussi en valeur les musiques qu'ils produisent et qu'ils font dans les studios. Et je trouve ça vraiment intéressant de mettre vraiment parmi, dans le montage, vraiment mettre en valeur les deux aspects, en fait. L'artiste et aussi la création de l'artiste.
Merci.
Voilà.
Alors, j'ai beaucoup apprécié aussi ce film-là, mais j'ai plus apprécié celui qu'on a vu ce matin qui s'appelle Savoy, qui parlait d'un attentat fait par des, enfin d'une prise d'otage fait par des terroristes en Syrie, me semble, je crois que c'est ça. Et c'était une réalisatrice aussi qui est intervenue à la fin, on a pu poser des questions. C'était très intéressant la manière dont elle a réalisé son film et la construction de son film en général, surtout au niveau du montage. Il y avait beaucoup d'images d'archives et aussi d'images qui ont été reproduites. Enfin, ils ont reproduit l'histoire avec des acteurs. Et c'était vraiment très, très intéressant. Toute la manière de monter, la gestion du son et de l'image. Voilà, c'était très beau.
Merci. Côté gestion de prod, votre feeling là, par rapport à ce que vous avez vu ?
Moi, c'est Allons enfants. On a vu ça fin d'après-midi, je ne sais plus. Bref, hier. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir plein d'enfants. Enfin, pas d'enfants, des adolescents plutôt. De ce monde-là. Qui dansent. Et c'est beau de les voir danser comme ça. Le hip-hop en plus. On découvre pas mal de choses. Et puis surtout la musique, moi, que j'ai énormément adorée. Il y a des moments où on est en immersion, comme si on était avec eux. C'est fou. Moi, je trouvais ça... J'ai beaucoup apprécié ce film-là. Ouais.
Conrad ?
Ben, pareil, bon, j'ai beaucoup aimé Allons enfants, parce que je trouve que c'est un film qui décrit assez bien la réalité. Parce que parfois, la diversité, on ne l'a pas dans tous les établissements. Mmh. Et là, ça montrait... moi, ça m'a rappelé mes années lycée où il y avait beaucoup de diversité, où les gens étaient aussi un peu comme ça. Et du coup, ça m'a fait rappeler ça. Et c'était assez drôle aussi. Je pense qu'on pouvait s'identifier à eux, parce qu'on a à peu près le même âge. On est passé par là aussi. Donc, je trouve que c'était intéressant à voir.
Ouais, c'était un lycée parisien qui expérimente d'autres méthodes pédagogiques en s'appuyant sur le hip-hop, entre autres. Ouais. Avez-vous... des éléments à rajouter.
On a aussi vu Girl Gang cet après-midi. Et on n'a pas exactement le même avis, mais globalement, il y a des similitudes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Enza.
On va peut-être rappeler Morgan.
On va avoir un gros débat là-dessus. Non, en vrai, si je trouve que je suis quand même assez d'accord avec lui sur le fait que l'image des écrans peut impacter vraiment... nous, notre génération, on est vraiment là-dedans. Et je trouve qu'on se donne, à travers ce documentaire, je trouvais qu'on pouvait se donner une image autre de soi et on pouvait se perdre, en fait. Et je trouve ça quand même dommage. Faut revenir à la réalité, quoi, des fois.
Revenir à la réalité, on est sur le documentaire. Bravo.
Eh oui.
Merci, merci les jeunes. Merci de votre présence.
Merci à vous.
Et puis, peut-être au mois de juin pour les oraux.
On a hâte, on a hâte.
Voilà. Un grand merci. Et merci à vos professeurs de vous avoir accompagnés aussi. Nous allons enchaîner avec deuxième objet sonore qui va nous transporter... Vous voyez, c'est ça la magie du documentaire. On était au Brésil, en Ukraine. Et là, on va se retrouver en Afrique avec Thomas Sankara.
Une nuit, on tape à mon portail, je me lève, je vais ouvrir. C'est Thomas Sankara et Blaise Compaoré qui sont arrêtés. Ils sont venus à pied. Je les reçois donc sur ma terrasse, comme ça. Et puis il me dit, on va prendre le pouvoir, on va transformer les choses dans ce pays. J'ai dit, ah!
Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to!
Est-ce que tu connais Thomas Sankara ?
Non.
Non. Non.
Oui.
Ça va ?
Oui.
Non.
Moi non.
Afrique ?
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, je ne connais pas.
Ça me dit quelque chose de nom ?
Thomas quoi ?
Non.
Non, je connais pas Thomas Sankara.
Pas personnellement en tout cas.
Absolument pas.
Là, le petit Bayonne, bar sympa pour les fêtes de Bayonne. C'est tout. Allez hop. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Sankara.
C'est qui ?
Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre.
La révolution, ce n'est pas un dîner de galas. Hein. Ce n'est pas avec des queues de pied et des nœuds papillons qu'on fait la révolution. On ne va pas continuer à mendier. La mendicité, c'est fini. On se sauve soi-même. On n'est pas sauvé par quelqu'un.
Il y en a qui demandent, mais où se trouve l'impérialisme ? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés.
On a un gars comme Sankara, qui va droit au but, alors qu'il a en face de lui quand même ses Mitterrand.
Que des autorités françaises viennent s'acoquiner avec des autorités burkinabées, africaines. C'est effectivement les capitalistes qui en profitent. Et nous sommes prêts pour qu'ensemble, nous luttions contre eux.
C'est un homme un peu dérangeant, président Sankara. Hein ? Et non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix.
Pourquoi avoir voulu changer le nom de la Haute-Volta ?
Le président du Conseil national de la Révolution, chef de l'État, et dénommé Haute-Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso.
C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue.
Qui veut dire
Patrie des hommes honnêtes.
La devise est la patrie pour la mort.
Toujours dans son petit quartier, et s'il faut, il rentre à vélo même chez lui, et, parce qu'en fait, il est proche du peuple, il est le peuple en fait.
Thomas Sankara, son salaire était connu, c'était moins de 200 000 francs CFA, donc moins de 200 euros.
Moi qui vous parle, j'avais quoi? J'avais même pas 200 euros par mois en tant que ministre pendant 4 ans. Mais je ne m'en suis pas plaint, je ne m'en plaignais pas.
Nos ministres ne sont pas autorisés à voyager en classe première, en première classe dans les avions. Ils prennent les classes touristes.
Et Thomas ne supportait surtout pas, c'est l'accumulation excessive de biens personnels.
Mercredi, jour de réunion du Conseil des ministres. Ceux-ci s'y rendent dans leur nouveau véhicule de fonction. En effet, là aussi, pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symbole du pouvoir utilisé par les précédents régimes, ont été remplacés par des R5.
C'est lui qui l'a dit. Il préfère que l'eau potable pour tout le monde plutôt que le champagne pour quelques-uns. C'est fort quand même, ça parle. Donc de ce point de vue, je pense que ce n'est pas de l'égalitarisme, ce n'est pas du populisme, non, c'est du réalisme.
Vive le capitaine Sankara ! Vive le capitaine Pamboré !
Ils sont montés au pouvoir très jeunes, ça bouillonnait de partout. Il fallait expérimenter toutes les idées. Et je crois que ça allait un peu trop vite. Il a fait plein de petites erreurs, en fait.
Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite, des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors, pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer à cette lancée-là.
Un objet sonore proposé par Clarisse et par Simon, qui sont à mes côtés. Alors, Thomas Sankara, c'est un mystère, puisque aujourd'hui, c'était d'ailleurs l'objet de ce documentaire, il est devenu une icône, l'icône africaine. Il a été président du Burkina Faso, ex-Haute Volta. Il est assassiné en 1987. Et pourtant, en 2023, son nom résonne encore. Il apparaît un petit peu à la façon du Che Guevara, sur des t-shirts. Il inspire des rappeurs, des slameurs. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mystère Sankara? Alors, Clarisse et Simon vous proposent, on a un micro HF dans la salle, d'échanger un petit peu sur cette question-là par rapport à votre degré de connaissance de l'homme, hein, mais aussi de son image. Clarisse, Simon, si vous voulez prendre le relais.
Alors, c'est vrai que, en fait, peu de personnes le connaissent de notre époque, mais pourtant, il est souvent cité, que ce soit dans des textes de rap, comme le présentait le documentaire de Brut au FIPADOC, mais aussi quand même assez connu de la jeune génération. Et en fait, on s'est un peu demandé aussi pourquoi c'était le cas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il était hyper avant-gardiste sur plein de sujets. Par exemple, la cause féministe. Il a nommé plusieurs femmes ministres à la tête à des ministères. Il a interdit l'excision, qui était encore autorisée à cette époque, en 1983, avant sa montée au pouvoir. Fin de la dot, fin de d'autres choses comme ça. Aussi, il a fait des mesures écologistes assez radicales.
Donc, Sankara a été au pouvoir pendant 4 ans, puisqu'il a été assassiné par son frère de cœur, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, Blaise Compaoré, en 1987. Et lui, les questions qui se posaient, c'était surtout la souveraineté de son pays, l'anti-impérialisme donc des pays surtout occidentaux Et voilà. Et il faut savoir que le mec était quand même à la tête d'un pays qui était le 8e pays le plus pauvre du monde, avec 92% d'analphabètes. Et il faut réussir à convaincre les gens, à motiver les gens, à se redresser, arriver à l'ONU et dire « j'en ai rien à faire de ce que vous me racontez, on va faire ce qu'on veut ». Et par exemple, donc pour l'écologie, il a interdit pendant toutes ces années de pouvoir de couper les arbres parce qu'ils avaient un gros problème par rapport au désert qui avançait au Burkina Faso, la déforestation. Et ce qui se passait, c'est que les animaux ils meurent, les arbres aussi, les gens à la fin aussi. Et que la première chose pour affronter la pauvreté et la faim, c'était d'arrêter de couper les arbres. Et ils se sont rendus compte dans plein de villages, même après, les conséquences positives que ça a eues, c'est-à-dire que les bêtes ont arrêté de mourir autant, que la forêt a pu réavancer et que la terre devenait de plus en plus fertile puisqu'il n'y avait pas de surcoupage des arbres.
L'anecdote, elle est assez marrante, c'est qu'apparemment, pendant plusieurs années, vraiment... si un véhicule était arrêté par la police et qu'il transportait du bois, il y avait sanctions, amendes, etc., etc. C'était vraiment interdit, la coupe du bois, quoi. Et ça montre aussi l'aspect un peu extrême de Sankara, en mode... il voulait aller très vite dans le changement, très vite dans tout ça. Et ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Notamment aux Occidentaux, la France, parce que c'était une ex-colonie française. Et à un moment donné, par exemple, dans l'objet sonore, on entend Thomas Sankara faire un peu une leçon de morale à Mitterrand. Et on a Mitterrand qui répond, et qui est un peu abasourdi, parce qu'il ne s'attendait pas à une telle « rébellion », entre guillemets, alors que bon, c'était quand même indépendant. Et en fait, tout ça, ça a pas mal dérangé d'autres puissances et aussi à l'intérieur du pays. Ce qui fait qu'en 1987, oui, à 37 ans, Thomas Sankara est assassiné par son ami d'enfance, enfin non, son ami tout court, son bras droit, Blaise Compaoré, avec qui il partageait tout, c'était son homme de confiance, etc. Et du coup, s'ensuit un coup d'État de Blaise Compaoré et une montée au pouvoir qui a duré jusqu'en 2011 ou 2013.
2014,
ok. Voilà.
Dans le public, avez-vous des questions, puisque vous avez compris que Clarisse et Simon sont devenus des experts de la question et de la Haute-Volta et du Burkina Faso, ce pays qui est voisin du Mali. Cher public.
Ou pas.
Ou pas, on peut continuer à raconter des choses qui t'intéressent.
Après, on a une super carte blanche sur les apprentis.
Tout à fait, tout à fait.
Je dis ça.
Voilà. Ah, une question de la part de Luc.
Oui, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, le Burkina Faso, bon, je ne connais pas trop bien ce pays. De cet héritage, qu'en est-il resté, justement, sur le plan politique? Est-ce que, au niveau des régimes, il en est question dans le documentaire, ou est-ce que vous êtes intéressé à la question?
Alors, donc il s'est fait assassiner par son ami d'enfance, à tel point que il faut savoir qu'il était orphelin et le père de Sankara avait proposé de l'adopter quand ils étaient plus jeunes. Donc ça faisait, ils ont fait l'armée ensemble, ils ont tout fait ensemble. Comme c'est dit au début de l'objet sonore, ils sont allés voir leurs camarades une nuit en disant « Bon, allez, c'est bon, là, on prend le pouvoir. On n'en peut plus de ces gouvernements de vieux autocrates qui laissent le pays dans la misère et aux mains des autres, des autres puissances. » Et le coup de couteau dans le dos en 1987, où on suppose que Mitterrand était un petit peu dans le coup aussi. Qu'il aura incité Compaoré à faire ça.
Ce qu'on appelle la France-Afrique.
Voilà. Qui nourrissait une jalousie depuis des années, puisque c'était l'homme, le bras droit de Sankara dans l'ombre. Donc, il est arrivé au pouvoir. Les Burkinabés étaient très mécontents. Ça a finalement éclaté en 2014, où il y a eu la seconde révolution du Burkina Faso. La première était donc de 1983 à 1987. C'était pas une révolution par les armes, puisque ça a été fait très calmement. Et ce qu'on appelle la révolution, c'est plus la période d'investiture de Sankara avant de mourir. Et en 2014, par contre, les gens ils sont sortis dehors, ça a pas déconné. Et il a été obligé de s'exiler en Côte d'Ivoire. Voilà, on l'a pas revu. Récemment, là, c'est dans l'actualité, il a été jugé au Burkina Faso, donc il est censé purger des peines de prison à perpétuité, sauf qu'il est encore en train de faire le retour du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Et donc, ben, maintenant, on a juste des gouvernements instables. Personne n'arrivera à la cheville de Sankara, qui fait encore rêver maintenant, qui est la figure de toute l'Afrique qui a porté espoir, qui voulait s'affranchir de tout et être souverain sur tous les points cruciaux. Et le Burkina Faso est toujours l'un des pays les plus pauvres. Et il fait toujours emporter son riz de Chine, il fait toujours emporter son maïs des quatre coins de la terre. Et ça n'a pas avancé, ça a même plutôt régressé. Donc c'est pas...
Il négocie le retirement des troupes françaises. Ouais. Et d'un autre côté, ouais, c'est l'arrivée de Wagner, la milice russe. Et,
Face aux djihadistes.
Officieusement. Voilà, ouais. Et aussi les djihadistes. Voilà.
Il y a une situation très compliquée avec les djihadistes au nord du pays. C'est un peu chaotique. Donc ils sont entre « faut nourrir les gens », il y a des intégristes religieux qui arrivent en haut et ils ne sont pas là pour offrir des fleurs du tout. Et ils n'ont aucun gouvernement fort qui est là pour redresser le pays. Et il faut manger.
Regardez le film « Timbuktu » d'Abderrahmane Sissoko, franco-mauritanien. Et vous comprendrez ce que signifie l'arrivée dans un pays de ces gens qui ont lu de travers le Coran. Parce que le Coran, c'est pas ça. Voilà. Merci.